papirku. Jadi kecil.
Quoi? Mais quelle est cette forme de sacrifice que l'on fait des animaux, qu'on dégorge des animaux devant l'autel?
C'est certainement une des plus obscures. Une des plus inconscientes. Et le sacrifice dont il est question ici et dans le Gita, c'est le sacrifice que l'on fait de soi-même, pas des autres.
Non, parce que ici, je me... Qui que ce soit à qui le sacrifice est fait, quelle que soit la nature du don, c'est le suprême, l'éternel dans les choses qui le reçoit et l'accepte.
Heureusement pour la pauvre bête qui est sacrifiée. Peut-être qu'elle va tout droit au divin. Ce serait très intéressant de voir ça. Un homme qui veut se faire bien voir du divin ou d'un dieu quelconque, d'une divinité quelconque, pour obtenir quelque chose de très égoïstement personnel, quelque chose qu'il désire et qu'il a de la peine à obtenir. Et alors, il s'empare d'un poulet de sa basse-cour et il va lui couper le cou devant la divinité avec sa prière qui peut-être est d'avoir une bonne récolte ou de bien vendre sa récolte ou d'avoir un enfant s'il n'en a pas ou que sa femme guérisse si elle est malade ou n'importe quoi. Et puis, que cette parcelle de psychique en évolution qui est déjà comme une petite étincelle dans la semi-conscience, même pas semi-conscience, le rudiment de conscience qui est dans le poulet aille tout droit au divin qui le magnifie, tandis que l'homme qui a offert le poulet pour obtenir quelque chose n'est même pas entendu. C'est très probablement ce qui se passe. Alors, celui qui a vraiment gagné dans cette affaire-là, c'est le poulet. C'est pas long.
Mais il y a des gens qui font des sacrifices et des offrandes aux faux hostiles. Est-ce que ça aussi c'est reçu par le divin?
Qui font des raisons intéressées, si je veux dire, non? Les sacrifices des gens, comme ce que je viens de dire maintenant, qui offrent quelque chose dans un but tout à fait intéressé.
Non, qui font des sacrifices aux faux hostiles.
Aux forces hostiles. Mais ils ne savent pas qu'ils sont hostiles. N'est-ce pas? Ou comme ici, ils font quand ils promènent, par exemple, la divinité du choléra. Pour la divinité de la petite vérole, pour que on la promène avec des chants et en tapant le tambour et tout ça, et puis on lui fait toutes sortes de francs, c'est pour qu'elle soit contente et qu'elle ne tue pas trop de gens. Il faudrait d'abord être sûr que cette divinité-là existe, que ce n'est pas seulement une poupée là, sur soi. En tout cas, dans une circonstance de ce genre, je crois que c'est surtout la foi des gens qui les sauvent. Quand ils ont bien fait leur petite cérémonie, ils ont confiance, oh, maintenant ça va être fini parce qu'elle est contente. Et comme ils ont confiance, ça les aide à réagir et la maladie s'arrête. J'ai vu ça pas très souvent dans la rue. Il peut y avoir une petite entité hostile, mais ce sont des choses très insignifiantes. Pour ces choses-là, dans d'autres cas, dans certains temples, ce sont des êtres du vital plus ou moins puissants qui ont fait leur demeure là. Mais ce que Sri Aurobindo veut dire là-dedans, c'est que il n'y a rien, même les forces les plus antidivines, qui ne soient dans leur origine. Le suprême divin, alors nécessairement, tout retourne à lui, consciemment ou inconsciemment. Le dans la conscience de celui qui fait l'offrande, ça ne va pas au divin. Ça va au plus ou moins grand démon auquel il s'adresse. Mais à travers tout, à travers le bois de l'idole, ou même la mauvaise volonté de l'adversaire vital, en dernière analyse, tout retourne vers le divin, puisque tout en vient. Seulement, celui qui a fait l'offrande, le sacrifice, il ne reçoit qu'en proportion de sa propre conscience et de ce qu'il a demandé. Alors, c'est ce que l'on pourrait dire au point de vue théorique que ça retourne au divin, mais ce n'est pas, il n'y a pas. La réponse vient de ce à quoi il s'est adressé. Pas à l'origine suprême. Parce que vous n'êtes pas en rapport avec elle, vous n'êtes en rapport avec elle. Juste le pas suivant, l'intermédiaire suivant, sera plus loin. Il est certain que si le geste est tout à fait inconscient, le résultat est tout à fait inconscient aussi. Et si le geste est tout à fait égoïste, le résultat est tout à fait égoïste aussi. C'est comme ce que cette histoire que j'ai lue vendredi. La première histoire de Chiomindo que j'ai lue le vendredi. On disait, oui, n'est-ce pas, il expliquait le karma en disant que le mal a pour résultat le mal et le bien a pour résultat le bien. Et c'est ça le karma. Le mal engendre le mal et le bien engendre le bien. C'est ça le karma. Ce n'est pas une punition ou une récompense, c'est une chose automatique. Eh bien, si votre sacrifice est un sacrifice égoïste et obscur, nécessairement, il aura pour résultat un résultat obscur et égoïste.
C'est écrit ici, ouvert lumineusement à la lumière.
Hein?
Ouvert lumineusement à la lumière.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut être ouvert lumineusement?
Si tu veux, tu peux remplacer le mot lumineusement par le mot sincèrement. Ou d'une façon transparente. Comme quelque chose qui n'est pas opaque ou qui ne déforme pas. Quelque chose qui est clair, qui est transparent, qui est sincère, qui ne trouble pas. Bien. N'est-ce pas? C'est comme si on avait l'image d'une fenêtre ouverte sur la lumière. Alors si les verres sont des verres noircis, ou des verres opaques, ce qui passe au travers est justement rendu sombre et opaque, et il passe peu. Et si ce sont des verres tout à fait transparents, alors c'est la lumière lumineuse qui vient. Ou si vos verres ont des couleurs, la lumière se colorera d'une façon ou d'une autre quand elle vous atteindra. Tandis que si c'est absolument pur et transparent, elle viendra pure et transparente.
De la vraie sacrifice.
De quoi?
Quand Gita parle de la vraie essence du sacrifice, il dit que ce n'est pas l'immolation de soi, mais la transformation de nos membres humains en membres divins. Alors est-ce que ça ne dit pas que c'est la transformation physique que nous aspirons?
Mais il n'a pas dit que c'était pas ça. Il n'a ni dit que c'était ça, ni dit que c'était pas ça. Quand il dit transformation intégrale, il parle naturellement de la transformation physique. Mais le Gita ne parle pas de transformation intégrale, je ne crois pas. Parce que pour le Gita, il n'y a pas eu l'idée de la transformation physique. Comme je vous expliquais l'autre jour, le monde est comme il est, vous n'avez qu'à le prendre comme il est, à ne pas être affecté par ce qu'il est, parce que vous entrez dans une conscience supérieure, vous vous libérez des formes extérieures, mais elles restent telles qu'elles sont. Il y a bien question un peu de changer le caractère, mais il n'est pas question de changer le monde matériel. C'est tout. Ah ben là, il n'y a rien.
Monsieur, je n'ai pas compris. Les ennemis intérieurs doivent être sacrifiés dans le plus rigoureux sens du mot, quelle que soit la douleur qu'ils puissent, en s'en allant, jeter par réaction sur la conscience de la foule.
Pas compris. Ça ne t'est jamais arrivé, non?
Mais la réaction...
Comme par exemple, tu as un mouvement que tu n'aimes pas. Un mouvement, mais un mouvement de colère ou de dépit ou bien de toutes sortes de choses comme ça. Ou quelque chose d'insincérité ou quelque chose que tu n'aimes pas. Quand tu le rejettes de toi, quand tu veux faire un effort pour ne plus l'avoir, ça te fait mal, non? Ça fait mal, c'est comme si on arrachait quelque chose, ça fait mal. Eh bien, c'est cette douleur-là qu'il parle, il dit que c'est la chose mauvaise que tu jettes en dehors de toi, qui au moment de s'en aller te donne un gentil petit coup comme cadeau de départ. C'est ça qu'il dit. C'est parce qu'on est toujours dans l'illusion que la douleur, c'est à soi, c'est pas vrai. La douleur est une chose qui est mise sur vous. Le même événement pourrait arriver exactement semblable dans tous ses détails et que ça ne vous fasse pas l'ombre d'une douleur. Au contraire, quelquefois ça peut vous remplir d'une joie extatique. Et c'est exactement la même chose. Mais dans un cas, on est ouvert à ces forces adverses que l'on veut rejeter de soi, et dans l'autre cas, on n'est pas ouvert. On est déjà suffisamment loin d'elles pour qu'elles ne puissent plus avoir d'effet sur vous. Et alors, au lieu de sentir le côté négatif qu'eux représentent, on sent seulement le côté positif que le divin représente dans l'expérience. C'est la grâce divine qui vous fait faire le progrès. Et avec la grâce divine, on sent la joie divine. Mais au lieu de s'identifier à la grâce qui fait faire le progrès, on s'identifie à la chose vilaine dont on veut se débarrasser. Et alors, naturellement, on sent comme elle et on souffre. Ça, c'est une expérience que vous pouvez faire si vous avez juste un petit peu de conscience. Il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas, qui est mauvais, pour une raison ou pour une autre. Vous n'en voulez pas. Vous voulez l'arracher de vous. Eh bien, si vous vous identifiez si peu que ce soit à cette chose-là, vous sentez la douleur de l'arrachement. Si au contraire vous vous identifiez à la force divine qui vient pour vous libérer, vous sentez la joie de la grâce divine. Et vous avez l'extase du progrès que vous avez fait. Et c'est pour vous un signe certain. C'est une indication certaine de ce avec quoi vous vous identifiez. Si vous vous identifiez aux forces d'en bas, vous souffrez. Si vous vous identifiez aux forces d'en haut, vous êtes heureux. Et je ne parle pas d'avoir du plaisir, n'est-ce pas? Il ne faut pas, croire que je dis que quand on saute, on danse, on crie, on joue, on est identifié avec les forces divines, on peut pas l'être, on peut l'être aussi. C'est pas de ça que je parle. Je parle de la joie la joie divine, la joie intérieure qui est sans mélange. Chaque fois qu'une ombre passe avec ce qui peut être simplement un malaise ou qui peut devenir une grande douleur ou une souffrance intolérable, sur toute la rangée, depuis la plus petite chose jusqu'à la plus grande, dès que ça paraît dans votre être, vous pouvez vous dire, tiens, l'ennemi est là. Sous une forme ou une autre.
Quelle est l'expérience de l'être qui s'est donné complètement à Dieu? Quelle est l'expérience de l'être qui s'est donné complètement au Dieu?
Mais fais-la, mon enfant, tu le sauras. Ce n'est pas la même pour tout le monde.
L'intention dans l'homme et l'esprit qui est derrière l'intention, faut dire ça, ce n'est pas la même chose.
Quoi?
L'intention dans
l'homme. Oui, oui, je sais bien.
Et l'esprit qui est derrière l'intention. Ce n'est pas bon. Là, c'est
oui, oui. Pour moi, c'est aussi clair que de l'eau de roche. Je ne comprends pas votre question. Quelle est la différence entre l'intention et l'esprit de l'intention?
L'esprit qui est derrière l'intention.
Oui.
Il y a l'intention dans l'homme.
Oui.
L'esprit qui est derrière cette intention.
Oui. Et alors? Et expliquez-vous.
C'est-à-dire sacrifice.
Non, vous faites un sacrifice.
Oui. Alors il y a une intention.
Une intention, n'est-ce pas? C'est ce que nous disions tout à l'heure.
Oui.
Oui. Et alors?
L'esprit qui est derrière l'intention.
Il n'y a pas un esprit derrière toute chose, non?
C'est toujours bon.
Hein?
Il y a toujours un esprit qui est derrière.
Oui, eh bien oui, mais c'est tout ce qu'il a dit. C'est exactement ça qu'il a dit, pas autre chose. Il faut savoir quel genre d'esprit là est derrière votre intention.
Oui, le résultat des fruits est différent.
Hein?
Il dit le résultat.
Mais naturellement. Suivant l'esprit dans lequel vous faites la chose, le résultat est différent.
L'esprit et l'intention n'est pas la même chose.
Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous ne sentez pas la différence qui vient entre les deux, je ne peux pas vous l'expliquer. Il y a des forces qui sont à l'œuvre, n'est-ce pas, tout le temps, et qui mettent les gens en mouvement, hein, qui le font mouvoir. Dans l'être individuel, ça se traduit par des intentions précises. Mais derrière cette intention, il y avait une force qui agissait, qui n'est pas individuelle. Vous compris? Je crois qu'une des plus grandes difficultés pour comprendre les choses, c'est une simplification arbitraire qui met d'un côté l'esprit et de l'autre côté la matière. C'est cette sottise-là qui fait qu'on ne comprend rien. Il y a l'esprit et la matière. Ça, c'est très commode. Alors, si on n'appartient pas à l'esprit, on appartient à la matière. Si on n'appartient pas à la matière, on appartient à l'esprit. Mais qu'est-ce que vous appelez l'esprit et qu'est-ce que vous appelez la matière? C'est une quantité innombrable de choses, n'est-ce pas? Une échelle qui n'en finit plus. Et si vous pouvez avoir... Vous appelez esprit, quand, où est-ce qu'il commence votre esprit? À ce que vous ne voyez pas. Est-ce que c'est ça? Alors vous mettez dans l'esprit tous les êtres du monde vital, par exemple. Parce que vous ne les voyez pas dans votre état normal. Alors tout cela appartient à l'esprit. Et ils peuvent être justement l'esprit qui est derrière votre intention et qui n'est pas fameuse. C'est ça, c'est cette... N'est-ce pas, tous, comme les gens qui disent, quand vous êtes en vie, vous êtes dans la matière, quand vous êtes mort, vous allez dans l'esprit. Voilà, ça c'est... Alors, libérez l'esprit de la matière, vous mourrez et vous libérez votre esprit de la matière. Ce sont ces âneries-là qui font qu'on ne comprend rien du tout. Mais ça ne correspond pas au monde tel qu'il est. Pour la conscience humaine, telle qu'elle est, il y a certainement infiniment plus de choses qui sont invisibles qu'il n'y a de choses visibles. Ce que vous connaissez, les choses qui sont pour vous visibles et dont vous êtes conscient, c'est à peu près comme la peau d'une orange, n'est-ce pas ? Par rapport à l'orange. Et encore des oranges qui ont une peau très fine, pas des grosses peaux. Et alors, si vous ne connaissez que la peau de l'orange, vous ne connaissez rien d'une orange. Et c'est à peu près ce qui se passe. Tout ce que vous connaissez de l'univers, c'est juste une petite croûte superficielle, et encore vous la connaissez mal. Mais c'est tout ce que vous en savez. Et tout le reste vous échappe. C'est tout.